ce chiffre dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Saraz, Yochanan Levracha. Donc une question qui interpelle beaucoup les jeunes gens qui sont dans les chivotes. Est-ce que, après le mariage, déjà maintenant, est-ce que je dois maintenant assurer un travail, faire un apprentissage, des études, ou bien non, m'adonner à l'étude de la Torah et advienne que pourra. Alors d'abord, il est clair qu'on ne peut pas partir dans une optique irresponsable et dire « j'étudie la Torah et Dieu pourvoira ». Ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est beaucoup trop rare pour qu'on puisse compter là-dessus. En Israël, bon, il faut savoir qu'on va prendre les choses depuis la base. D'après Pirkei Avot, Maxime des Pères, écrit il y a 1800 ans, repris par le Rambam il y a 900 ans, repris par Shulchan Aruch il y a 500 ans, il est interdit qu'un homme étudie sans avoir un travail. Parce que ça éteint la religion, ça le fait pécher, ça veut dire que la chaîne profanation du nom de Dieu, il y a toutes sortes de malédictions terribles. Néanmoins, nous avons l'obligation, d'après la Torah, d'écouter les grands de chaque génération. Il y a déjà plusieurs siècles, c'est entre 500 et 700 ans, les grandes générations ont dit il est impossible que le peuple d'Israël puisse survivre en exil sans qu'il y ait une élite qui s'adonne entièrement à l'étude de Torah, qui sera aidée par les gens qui travaillent. Et bien que normalement on ne devrait pas avoir de gens qui étudient sans travailler, néanmoins, être la sota Hashem et Torah Terra, être dans des époques pour Dieu, on doit aller contre la Torah. Ce n'est pas donné à n'importe qui de dire pour Dieu, maintenant je vais contre la Torah. C'est les grandes générations et uniquement eux qui peuvent décider d'une chose pareille. Nous avons un cas, la loi orale était orale, elle n'a pas le droit d'être mise par écrite. Alors, 220 de l'ère chrétienne, Rabbi Lohanassi, le dirigeant spirituel du peuple juif, décide de mettre les gros titres de la loi orale par écrit, la Mishnah. C'est interdit. Il dit, est la sota Hashem et fait autour terre. Quand on a un moment, une époque pour Dieu, où il y a nécessité d'agir autrement que la Torah, on va contre la Torah. Parce que c'est le désir de Dieu aussi. On ne peut pas... Il y a des lois, qui, quoi, comment. On ne peut pas annuler une loi de la Torah, c'est clair. On peut, dans les lois des Rabbanan, etc. Là, il s'agit des lois des Rabbanan, de ne pas écrire la loi orale, ou par exemple, d'interdire à quelqu'un d'étudier sans avoir un travail. Il est clair aujourd'hui que s'il n'y avait pas cette élite du peuple juif qui s'occupe de l'étude de Torah à temps plein, il n'y aurait plus de peuple juif. Impossible. Il y aurait une assimilation, elle est déjà galopante, mais il n'y aurait rien, il n'y aurait aucun repère, il n'y aurait pas de Bnei Torah, il n'y aurait pas de cadre, il n'y aurait pas de grand rabbin, il y aurait, je parle de grand rabbin, pas le titre de grand rabbin qu'il y a dans certains pays, d'accord, je parle de grands sages d'Israël. Donc, les dirigeants du peuple d'Israël, comme leur donne la Torah, nous devons écouter les grands les dirigeants du peuple d'Israël, et ceux-ci, il y a déjà 5, 6 ou 7 siècles, ont dit qu'il fallait qu'une élite de personnes qui soit vouée à étudier la Torah non-stop, sans métier. D'autant plus après la Shoah, où il y avait une situation de spirituelle de Torah lamentable. Je dis après la Shoah, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une désinformation très courante dans le peuple juif, comme quoi avant la Shoah, il y avait beaucoup, beaucoup de religieux en Europe, et ils ont été tués dans les camps. Et donc après, il n'y avait plus de religieux, plus beaucoup de religieux. C'est archi faux. C'est vrai que beaucoup de religieux ont été tués dans les camps, mais c'est beaucoup, il n'est pas beaucoup, beaucoup. Si on parle maintenant des étudiants de Torah, il semblerait qu'il n'y avait pas plus de 2000 étudiants de Torah en Europe avant la guerre, pour toute l'Europe. Aujourd'hui, les yeshivas moyennement grandes en Israël, elles ont 1000, 2000 élèves sans problème. Mir, on a 7000. Donc il y a, c'est vrai qu'il y a un renouveau extraordinaire de Torah, tel qu'il doit être normalement. La situation de dégradation spirituelle du peuple juif a commencé avec la Révolution française. Ça s'est propagé à l'Europe entière. Les mouvements qui sont auteurs des pires crimes contre le peuple juif, tels que le mouvement d'émancipation, Mendelssohn et d'autres, qui ont dit « Pourquoi rester juif comme nous sommes dans le ghetto? Sortons, soyons comme les autres, on va faire des études, etc. » Faut s'émanciper. En deux mois, en deux générations, t'es goy. Alors au début, eux c'était donc c'est des gens qui connaissaient la Torah, qui ont dit on peut être grand en Torah, et aussi être, s'habiller pas comme un juif, s'habiller comme un goy, on mange kasher, mais on mange aussi avec, à la cafette de l'époque, d'accord, de la fac, etc. Pas besoin de rester aussi fermé, on s'ouvre. Et on commence à avoir des coutumes goy. Tant que tu veux t'ouvrir encore, ça va pas encore. Mais il faut garder maintenant les lois juives. Ils ont commencé à avoir des coutumes goy. Une grande scission, par exemple, c'était ils voulaient mettre l'orgue à la synagogue le lundi et le jeudi. Pour quand on sort la Torah, on le fait avec honneur. Les grandes générations ont dit non. Pourquoi non? C'est marqué dans la Torah. Les émancipés ont dit c'est marqué dans la Torah que c'est interdit. C'est marqué. Il ne faut pas aller d'après les chokot des goyim, les coutumes des goyim. Dieu a voulu que le peuple juif soit différent des goyim. Cette différence n'est pas que dans les idées, mais aussi dans la façon de faire. Évidemment, celui qui veut s'émanciper, il veut ressembler aux goyim, tout en restant juif, mais il veut ressembler aux goyim, ça va exactement contre la Torah. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. On est arrivé à des proportions d'assimilation dans le 18e siècle et 19e siècle tout à fait colossales. Colossales. Il n'y avait plus de Torah. 2000 étudiants de Torah, Bachurim Mishua, donc des étudiants de Yeshiva pour toute l'Europe, c'est rien. Alors que le peuple juif, c'était 16 millions de juifs à l'époque. 16 millions. Aujourd'hui, on ne sait même pas si on est 13 millions. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a fait qu'il y ait autant d'assimilation? On comprend qu'il y ait quelques assimilés, des familles, un par famille, mais qu'il y ait autant. Il y a eu un problème dans la Torah, dans l'éducation de la Torah, dans
les gens. Bon, c'est très dur pour moi de parler maintenant du pourquoi, du comment des choses. En tout cas, sache une chose, que les émancipés ont fait des efforts inimaginables pour aller et sortir les bachouré yeshivot des yeshivot. C'était une guerre.
C'est à cause de la philosophie qui a monté à cette époque-là.
Le grand pourquoi des choses, c'est les forces du mal. Ça, c'est la vérité. D'accord. Comme aujourd'hui en Israël, pourquoi il y a une partie du peuple qui est tellement opposée à la Torah, tellement, avec tellement de haine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'arrange que les gens tuent la Torah? Ouais. C'est pas normal. C'est comme l'antisémitisme. Pourquoi t'as des gens qui sont antisémites de façon viscérale? Bon, tu m'as lancé sur le sujet. Allez. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tu veux pas... Un grand antisémite, pourquoi il est antisémite? Il cherche des raisons. Comment on appelle ça? Tous les juifs du monde sont comme ça, c'est une sorte de... Comment ils appellent ça? Ils ont un type. La juiverie internationale, d'accord? Ils ont des ramifications partout, dans les États, machin. Ils gèrent le monde, c'est eux l'argent, c'est eux tout, d'accord? C'est les médias. Ils cherchent de trouver ça, mais il n'y a rien, tout le monde sait que... Tu l'as toi. Bon, il y a quelques riches par-ci, par-là. Ça, d'ailleurs, il y a aussi des riches chez les goyim aussi, d'accord? C'est pas... Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent chez les juifs. Ça, ils sentent. Mais ce n'est pas une chose qui est rationnelle. C'est complètement irrationnel. Alors, la source de la chose, il y a des âmes qui sont ancrées dans le mal. Et par définition, le mal, il a la haine du bien. C'est tout. C'est anormal. Les gens, il n'y a pas de raison. Je n'aime pas les juifs. Quoi? Alaha. C'est une loi du monde. Maintenant, ce qui existe maintenant dans l'antisémitisme général a lieu aussi dans le peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, il y a des courants qui sont battus par tous les moyens. Ils avaient dit, ils venaient, ils se faisaient passer par des rabbins. Tout. J'ai vu dernièrement, une de mes filles, je crois, ma petite fille de 12-13 ans, elle nous a amené un film, heureusement elle n'a pas trop compris, en français, d'un vieux film, c'était d'après-guerre, sur l'Alliance. Donner de l'argent pour les écoles de l'Alliance. Alors, c'est un film de 2 heures comme ça. Bon, j'ai pas le temps de regarder tout ça, mais bon, par-ci, par-là. Comment... Tu vois le juif moderne, beau gosse, moustache, sans kippa bien sûr, il va au Maroc, il rentre dans le Mellah là-bas, il est primitif, mais primitif, primitif. Et il réunit tous les rabbins, il leur propose de donner des cours de Torah, mais aussi avec un peu de français, un peu de grammaire. Et puis il importe des médicaments, alors il enlève les poux, d'accord. Et quand, c'est un truc de publicité très très bien fait. Et il montre les vilaines façons de faire qui ont à voir avec la religion primitive. On n'est pas contre la religion, mais il faut sortir du primitisme. Il faut devenir quelqu'un d'éduqué, de bien, de...
Hein?
Et ça a fait quitter à des centaines de milliers de juifs ont quitté la Torah. Et t'as encore des vieux français qui disent l'Alliance, ça nous a sauvé, la cause de l'Alliance, ouais, ça nous a sauvé. C'est terrible. Je vais me faire d'ailleurs... Les gens m'ont écrit après. Comment vous osez parler sur l'école de l'Alliance, d'accord, c'est le Messie. Ils ont amené la lumière au peuple juif. Aux endroits où ils ne sont pas arrivés à l'Alliance, Baba Selé, à l'époque, il avait écrit « Partout où l'école de l'Alliance est arrivée, c'est le Sitra Achras, le côté du mal. » En Algérie, voilà, combien de juifs sont restés en Algérie? Mais c'est un pays entier qui est parti en cacahuète. C'est inimaginable, l'assimilation algérienne. Terrible, terrible. Au bas fin du Maroc, là-bas, la région du Baba Salé, où ils ont péché, alors ils sont restés des bons juifs. Et encore, ils ont été influencés après, etc. Donc, pourquoi Dieu a fait ça? Je ne sais pas. J'imagine, on ne peut pas savoir quels sont les plans de Dieu, on n'est pas là-haut. Mais tu vois maintenant qu'il y a un mouvement de tchouva. Peut-être il y a un sens là. En tout cas, peu importe maintenant le sens, on revient à nos moutons. Les grands de la Torah, après la Shoah, ont voulu, comme toujours, se battre pour la survivance du peuple d'Israël. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a plus de peuple d'Israël. Donc, ils essayent sans cesse d'agrandir l'unité d'élite. Comme n'importe quelle armée. À l'armée, t'as les cuistots, t'as les commandos. Toutes les variantes. Maintenant, toute personne qui peut être commando, on va essayer de la convaincre. D'accord? Parce que si elle peut être commando et faire beaucoup d'actions, certains qu'un commando, il fait plus d'actions de défense qu'un cuistot. Chacun, il aide. Un cuistot, il fait bien à manger, c'est bien. OK. Mais on a encore plus de valeur un commando qu'un cuistot. C'est normal. Donc, les grands de la Torah, étant en guerre pour la survivance du peuple d'Israël, veulent qu'il y ait un maximum de commandos dans les unités d'élite. Donc ils vont éduquer et formater la jeunesse à vouloir être avrech. C'est-à-dire quelqu'un qui lui dit à temps plein, Kolelman. Ils vont former et éduquer les jeunes filles à vouloir un mari avrech. Et grâce à cela, aujourd'hui, le monde orthodoxe existe en Israël. Et c'est ça qui amène Mashiach, il n'y a aucun doute là-dessus. La Géoula, c'est bien, c'est pour ça, c'est grâce à ça. C'est grâce à eux qu'il y a la tchouva, sans eux, il n'y aura pas de tchouva. C'est grâce à eux qu'il y a un mérite de Torah énorme qui fait que le peuple d'Israël, aujourd'hui, ce petit pays de rien du tout, parmi une centaine de millions d'Arabes et d'ennemis, y survit. C'est clair, d'après la Torah, c'est clair. Alors, si quelqu'un ne croit pas à la Torah, il faut encore lui prouver cela, mais quelqu'un qui croit en la Torah, c'est clair. On n'a jamais gagné parce qu'on était beau, grand et fort. On a une armée et des bons avions, etc. Même les grands généraux savent très bien que c'est anormal, d'accord. La guerre des six jours, c'est un miracle de A à Z. Dieu n'a pas fait un miracle aussi grand que la guerre des six jours, et la guerre du Golfe, et toutes les guerres qu'on connaît, tous les miracles qu'il y a eu, parce qu'il aime bien l'Israélien moyen qui vend des falafels. Il aime bien aussi. Mais ce n'est pas la raison. Dans Israël, il y a une chose qui est beaucoup plus essentielle. Il y a un monde de Torah qui grandit et qui va éclairer le monde entier, qui commence à éclairer le monde entier. Ce qu'il y a eu, il y a 2-3 mois ici à Jérusalem, qu'un million de juifs orthodoxes ont créé chemin à Israël, ça commence à éclairer. Avant, c'était rien. C'était des gens, les bus passaient dans le quartier orthodoxe pour prendre des photos, regarder des zombies, comment ils vivent encore habillés comme il y a 3 siècles en Hongrie. On prend des photos, c'est intéressant, d'accord, les petits Chinois, ok. Aujourd'hui, t'as un million de juifs qui sont des zombies d'il y a 300 ans, d'accord, qui disent chemin à Israël. Il y a ici un... À la télévision en Israël, après ça, ils ont dit... c'était après l'enterrement du Rav Yosef. Il y a eu un débat de 3 journalistes, il y en a 2 qui ont dit, il y a un qui est resté super hanté, mais l'autre, il a dit, on a raté quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi dans le pays d'Israël. T'as un million, c'est un sixième du peuple qui va maintenant à un enterrement d'un rabbin. Et 2 mois après, il y a eu l'enterrement de... Comment il s'appelle? Sharon. Sharon, un grand héros. Le héros des guerres d'Israël, la guerre de Kippour, celui qui a fondu, il a passé le canal de Suez, il a désobéi aux ordres, il a 101 km, il a pris la 3e armée. Et puis avant, il était dans il y a des bouquins, dans ma jeunesse, on avait connu ça. Comment ils sont partis, ils partaient en Jordanie, aller faire des actions. Et toute la jeune israélienne, Ariel Sharon, c'était leur. Combien il y a eu? Ils ont préparé des milliers de sièges, quoi, quelques centaines sont venus comme ça, et encore, d'accord, à son enterrement. Ça parle, ça parle.
Il y a des gens qui sont soldats, hein, mais c'est les seuls cuisiniers de leur bataillon.
C'est trop compliqué ta question là.
Ouais. Des fois, il y a des gens, ils ont des kélim.
Des outils.
Et donc on leur dit, il faut être avraire, et du coup ils sont avraires, mais ils n'utiliseront jamais leur kélim qu'Akadosh Baruch Hu ils leur ont donné.
Bon, je vais y arriver. Donc tu dis qu'ils glandouillent en deux mots.
Comment ?
Ils glandouillent ?
Non,
au contraire, lui il lui rappelle le cuistot.
Il faudrait que
ils peuvent être des cuistots qui font à manger, et c'est les seuls à pouvoir faire du blétage.
T'es chef de l'armée. T'as un qui peut être maintenant dans l'unité des commandos, ils sont 20. Faire des actions extraordinaires pour aider Amisraël. Et la sécurité de millions de personnes dépend d'eux. Un qui peut faire du l'étage. Le même. Il faut choisir. Ou d'un commando ou dans l'étage. Dans quoi tu le mets?
La tribu de Dan a ramassé les objets perdus derrière les combattants.
Il y avait une tribu qui s'appelait la tribu de Lévi. Et Maïmonide écrit qu'aujourd'hui, on n'a plus de Lévi, mais chaque être humain, que son cœur l'a poussé, et sa date, sa connaissance l'a fait comprendre, de prendre le joug des calculs nombreux que demandent les gens. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il y aura? De quoi vivras-tu? Et quel diplôme tu auras? Et ça t'amène à quoi? Etc. Qui prend tout ça et le jette. Et t'as les droits comme Dieu l'a créé. Je te cite les paroles du Rambam, à la fin de Hilchot Shmita Vayovel. T'as les droits comme Dieu l'a créé. Et c'est sanctifié saint des saints. Chaque personne du monde qui veut aller servir Dieu. Et Dieu l'aidera. Alors on arrive maintenant au point. Le point c'était donc, que choisir? Alors il est clair que si on veut aider Amisraël, le meilleur moyen d'aider, c'est faire partie des commandos, c'est-à-dire ceux qui lui attendent jour et nuit. Mais dans les commandos, on ne veut pas des cuistots, des glandouilleurs. Prends Israël, la jeunesse non religieuse. Tu as beaucoup de jeunes gens qui rêvent d'être dans les commandos. Ils rêvent. Après, on les fait courir un peu, et puis on voit qu'ils ne tiennent pas le coup. Psst. Recalé. Un moment. Dans le monde des yeshivot, tu n'as pas d'exercice. Tu veux être avraire, bien, ok. Mais Dieu, c'est lui le grand entraîneur. S'il voit que tu glandouilles et tu fais travailler ta femme, alors peut-être encore, je vais sauter une étape, d'accord. Comment on va faire? Comment ces gens-là peuvent étudier jour et nuit? La manne va tomber du ciel? Non. Alors, le système anormal que les grands ont mis en place. Parce que quand on vit en situation d'exil anormal, il faut des réponses qui soient anormales. Si on était en situation où tout va bien dans le meilleur du monde, on est en sécurité, tous les juifs sont religieux, chacun a son petit lopin de terre, on peut travailler la terre, et chacun sous son figuier, sa vigne, comme c'est marqué à l'époque messianique, aucun problème. Tu vas travailler un peu la terre, tu vas étudier la Torah, il y aura une sainteté tellement grande que ta Torah, elle va monter des millions de degrés. Aujourd'hui, où le mal est tellement grand, où il y a Internet, les petites boîtes noires comme ça, du etc., partout, il y a 80% de peuples juifs qui s'assimilent. La situation, elle est tellement lamentable. Alors le petit pourcent, je ne sais pas combien c'est, 1% du peuple, beaucoup moins, d'accord, de juifs qui étudient la Torah, ça c'est vital pour le peuple. Donc on doit obliger, vu qu'on vit une situation anormale de 99% de gens qui sont à côté de la plaque, de donner une réponse qui est anormale, appropriée. Normalement, on vit sur Terre, et on respire normalement. Quand on est sous l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On respire normalement? Non, on prend des bouteilles d'oxygène ou un schnorkel, un tuba, d'accord? On est sous terre, on est sous l'eau maintenant. On est en exil, situation très très difficile. Sous l'eau, dans la boue. Il nous faut absolument des situations de rechange qui sont anormales par la Torah. Mais Dieu nous demande, dans les situations anormales, de vivre avec des solutions anormales. Comme un corps. J'avais lu il y a quelques années que si quelqu'un il a sa veine centrale de la jambe qui est bouchée, alors le corps va utiliser toutes les petites veines comme moyen palliatif pour faire passer le sang. Elles ne sont pas faites pour ça, mais le corps sait, lorsqu'il y a un problème, trouver des solutions palliatives. C'est ce qu'on fait aussi, les grands de la Torah. Pour cela, donc, il faut une unité, grande, le plus grand possible, si possible, pour qu'il y ait plus de bien au peuple d'Israël. Je répète, on est aidé terriblement. Regardez, j'ai déjà dit ça dans quelques cours dernièrement. On avait des ennemis terribles, des superpuissances. L'Irak, balayé. Le Rav Shach avait dit, c'est incompréhensible, c'est notre ennemi l'Irak. Depuis quand est-ce qu'on voit un pays qui envoie ses fils mourir pour un autre pays? Bush est devenu complètement fou. Fou. Il a pris toute son armée, on part contre l'Irak. Et l'armée américaine, elle se bat. Ils ont des blessés, des morts. Pour qui, en fin de compte? Pour les Américains. Quoi, les Américains sont menacés par Saddam Hussein? Nous, on est menacés.
On peut voir aussi qu'il y a un lobby sioniste aux États-Unis qui est très fort.
Mais pas à ce point. C'est les si forts, le lobby sioniste, qui débarrasse tous nos ennemis maintenant. Pourquoi l'Arabie Saoudite, elle envoie des armes sans cesse au Hamas, etc. Ils sont si forts.
C'est derrière des Américains, ils contrôlent les noms. J'ai aidé ça, je suis.
Mais tu sais combien tu peux aider et tu ne le fais pas. En Syrie, va maintenant en Syrie. Va en Syrie maintenant. Il a ramené ses porte-avions et il a tremblé de peur. Obama, il n'est pas rentré. Bush, il est sans problème. Si c'était Bush, il serait allé en Syrie, il aurait tout baladé, terminé. Bush, il est devenu fou. En tout cas, le Rav Shach a dit, c'est un miracle. Et c'est vrai un miracle. En tout cas, Dieu a fait en sorte qu'on n'ait pas bougé le petit doigt. On a souffert, on était dans les chambres étanches. Ok, mais on n'a pas eu de mort. 10 000 appartements détruits, aucun mort. On avait des miracles extraordinaires. La Syrie, qui était le deuxième ennemi tellement grand, ratatinée. L'Égypte, ratatinée. Il faut voir ces choses-là. Le gaz, bientôt il n'y a plus de pétrole chez les Arabes. Qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il nous fait trouver maintenant un gisement de gaz énorme. Énorme. Là, sous nos pieds, dans la mer, en Israël. Tu vois pas la main de Dieu, mais c'est extraordinaire. Grâce à quoi? Pourquoi Dieu fait ça? Je parle en tant qu'homme religieux qui sait que la Torah est vraie, que Dieu dirige le monde. On a droit à ces miracles. Grâce à quoi? Uniquement parce qu'on est le peuple de Dieu qui étudie sa Torah et qu'on le représente. C'est pas le vendeur de falafel ou aujourd'hui les Rolling Stones qui sont venus l'autre jour à Tel Aviv avec 50 000 personnes. C'est pas pour ça que Dieu nous fait toute cette aide-là. Les Rolling Stones, ils peuvent aller aussi en Amérique. Pas besoin de venir en terre d'Israël, la terre sainte pour ça. Donc celui qui veut vraiment aider à Israël, il va suivre l'ordonnance écrite dans la Torah et devenir avrer dans les commandos. Et sa femme, c'est elle qui va travailler. Alors qu'est-ce qui se passe? La femme, elle veut bien travailler. Au bout de 3, 4 ans, 5, 6, 7, ça dépend. Il y en a qui font des formations bien, mais il y en a qui font des formations moins bien. Ce que la femme amène à la maison n'est plus suffisant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait des enfants dans le monde religieux. Donc 1, 2, 3, 4, ça va, mais après 5, 6, 7, 8, ça va plus. Des fois, ça va aussi, mais des fois ça va plus. Dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Il est clair que la responsabilité de la parnassa, du gagne-pain dans la maison, elle incombe à l'homme. Bien que sa femme qui travaille, elle est déléguée. Mais c'est l'homme qui est responsable. Donc si un beau jour la femme dit « Ok mon cher mari, ça va plus, qu'est-ce qu'on fait ?» Ben, l'homme doit quitter, doit fermer la gemara et aller sortir. Bien, ben, si c'est comme ça, alors mieux vaut que depuis le début de l'âge de 18 ans, qu'il aille faire des études et qu'il ait un bon travail et fasse un bon mi-temps. Non, parce qu'on veut un monde de Torah qui soit florissant. Et pour ça, on a besoin de cette dizaine d'années de gens qui étudient la Torah. Et c'est grâce à ça que le monde tient. Le monde tient. De plus, les gens sérieux dans la Torah, ils seront aidés. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais ils seront aidés. Alors comment? D'abord, aide-toi, le ciel t'aidera. Pas rester comme ça, les bras croisés, Rachel a dit que ça va aider, ça va tomber du ciel, j'ai vu la Torah. Non. Alors, il y a des choses à faire. On commence à faire des petits métiers à côté. Alors, tu as parlé maintenant de faire un Sefer Torah. Très bien. Alors, un des métiers qui est conseillé, c'est Sofroute. Être scribe. Pourquoi? Parce que c'est un métier pratique, tu fais aux heures que tu veux. Tu n'es pas en contact avec le monde extérieur, avec tout ce que ça comporte d'impureté. C'est pratique. Il y en a qui rentrent dans l'enseignement, il y en a qui écrivent. Il y en a qui font... Alors, c'est conseillé aussi tous les petits métiers sympathiques. Pourquoi je dis sympathiques? On peut faire aux heures qu'on veut. T'as pas un boss qui te casse les pieds. Et qui te permet de faire une petite somme comme ça, quotidienne. Alors, j'en ai ici, il y a les chevaux qui font des chipoutsim. Ils travaillent dans le chipoutsim, qu'on dit en français. Le bâtiment, ils font des trucs comme ça. L'Arben Chaim, des années, il était jardinier. Chaque fois, toujours, en 1h et 3h30, il partait, tout ça, mettait son uniforme, allait faire des jardins, etc. Ouais, et il gagnait l'argent pour sa famille. L'autre jour, on a parlé avec lui. Il a beaucoup conseillé de faire un métier, par exemple, réparateur d'air conditionné, de four, de machine à laver. Surtout dans le monde français aujourd'hui. Les Israéliens, hélas, beaucoup sont magouilleurs. Ils voient un Français, c'est très dur pour lui se retenir de magouiller, d'accord. Donc, tu l'appelles pour faire de la plomberie, etc. Tu as de fortes chances de te faire avoir. Si maintenant, il y a une grande population française qui est ici aujourd'hui en Israël, si ça maintenant il y a un plombier français, on peut lui faire confiance, un religieux, on voit qu'il fait des prix bien, des prix moins, et que ça marche. Les femmes appellent la femme, je connais un plombier, il se fait un nom, et puis voilà, au bout d'un moment. Alors quelqu'un m'a dit oui, mais ça prend du temps. Ok, ça prend du temps, alors commence un an plus tôt. Et l'autre, pas quand t'es déjà à la gorge comme ça, que t'as des dettes de, je sais pas, tous les côtés, la banque t'appelle tous les deux jours. Non, tu commences déjà un peu, tu travailles comme ça. Il y a des solutions. Il y a encore beaucoup d'autres. Qu'est-ce que je passe par la tête encore? Il y en a qui commencent à faire du business, d'accord? Ils vendent des chapeaux, ils vendent des costumes, ils vendent des chaussures. Mon fils, un temps, il vendait des aquariums. Il importait des aquariums de Chine, il vendait des aquariums, d'accord? N'importe quoi, ça dans n'importe quoi, là. Oui.
Quand vous dites qu'il y a les cuistots, il y a les commandos, mais à l'armée, on a besoin de tout le monde. Ici aussi, ça voudrait dire que le cuistot, c'est peut-être pas un...
Aujourd'hui...
Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui peut pas, ou qui est pas fait pour.
C'est clair.
Ça peut être un bon cuistot. C'est clair. Quoi qu'il arrive, les commandos, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de
courrier,
des gens qui font la radio.
C'est pour ça que j'ai dit que... On recommande d'aller au commando. C'est comme à l'armée. Beaucoup rêvent d'être dans les commandos, mais c'est pas fait pour tout le monde. Quelqu'un qui ne peut pas. Il pèse 150 kilos. Il court 20 mètres, c'est presque la crise cardiaque. Pareil, mais je rêve d'être Arik Sharon. Tu rêves. Maintenant, t'en as un dans la Torah. Je transpose dans la Torah. C'est pas qu'il pèse 150 kilos, mais il dit 2 heures, il n'en peut plus. Il ne peut pas se concentrer. Il ne peut pas. Il peut pas. Il n'arrive pas. Au bout de 4 heures, il pète un câble. Mon cher ami, mais tu veux être le Rabbi Yosef. Ok, tu es très gentil, tu rêves. Va maintenant, sois un bon cuistot. Tu vas faire tes 3-4 heures d'études quotidiennes, et après une bonne parnassa, et c'est très bien. C'est ça le choix que la personne doit faire, doit être consciente de savoir qui suis-je. Je suis pour être où. Maintenant, ce choix est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'être avraire, c'est un futur qui paraît incertain. Et c'est pas clair que n'importe quelle femme, surtout les Françaises, seront d'accord d'avoir un mari avraire. Et alors, c'est de faire le métier, comme tout le monde le dit. Au moins, je suis maintenant le mouvement de tous les moutons, d'accord? Je vais faire un métier, j'aurai soit de l'argent, parce qu'aujourd'hui, les bacs plus 7, ça mène pas beaucoup plus d'argent, d'accord? Je te dis qu'hier, quelqu'un m'a appelé, Fumir Yeshiva, il a fait un bac plus je sais pas combien. Mais non, aujourd'hui, je travaille dans la restauration. Mais la restauration, quoi? Ouais, je fais la plonge, quoi. D'accord? La plonge, t'as un bac plus, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, c'est connu, il y a beaucoup trop de bac plus, il n'y a pas assez de gens qui sont sur le terrain. Donc, il y a un problème. Donc, au lieu d'aller faire de perdre 4-5 ans pour être « Ah, mon fils, il est bien, ah, je suis bien, j'ai mon diplôme, j'ai un bac machin plus », arrête tout ça, fais tes petits métiers à côté, ça gagne bien, ça gagne honnêtement, et tu as le temps pour faire ta Torah. Et ça, t'as gagné le top niveau. Donc, une femme qui est prête à travailler. Je recommande pour la Vrachim ici des femmes qui sont en Israël depuis un certain temps, au moins 4-5 ans, pas une Française qui ont labouré la tête d'avoir un mari avraire, puis elle vient ici et elle ne sait plus quoi faire. Après premier accouchement, elle va voir sa maman à Paris, après deuxième accouchement, elle va à Paris, troisième accouchement, elle reste là-bas. D'accord? Elle dit, si tu veux me revenir, si tu veux rester avec moi, tu viens, et on part en France. Quelqu'un qui est genre inséré ici, qui connaît bien la vie d'ici, qui a déjà un métier en Israël, et qui veut un avraire. Ensuite, on se met à étudier. Partagez jusqu'à ce que vous aurez besoin de plus d'argent, ma chère sera déjà ici. Si Ras Shalom, ma chère n'est pas encore ici, alors avoir des optiques de métiers qu'on peut faire de côté, bien qu'on étudie 4 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Et tout est tout à fait possible. Et comme ça, regardez, comment font un monde entier d'avrechim. Il y a bien 100 000 avrechim en Israël, comment ils font? Elles ne sont pas tous plombiers, évidemment. S'il y a 100 000 plombiers, ça n'ira pas. Chacun son métier. C'est l'heure déjà. Oula, c'est très, très tard. Baruch Adonai, l'homme, mais...